avez les questions, il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et oui, donc Philippe sera avec nous dans un instant. On va pouvoir parler avec lui justement d'orchidées, de conifères, de plein de choses. En tout cas, vos questions, vous les posez au 02 99 67 35 deux fois. On vous attend ici à France Bleu Armorique.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Cette chanson parle de la relation sulfureuse entre l'actrice Marilyn Monroe et le président des États-Unis John Kennedy. Le fin mot de l'histoire avec Vanessa Paradis. Paradis, Marilyn et John sur France Bleu Armorique. France Bleu.
Ho 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 ! Pendant les vacances sur France Bleu Armorique, ce sont les enfants qui racontent les histoires.
Une voix gouailleuse retentit. C'est un Korrigan. Il a la figure horrible.
Comptez pour moi, partez!
Tous les jours, à 8h28 et 11h50, les personnages, les lieux de Bretagne, et même moi, le Père Noël, se retrouvent dans leurs petites histoires.
Ce matin, le Père Noël passe une annonce pour trouver des remplaçants à ses reines qu'il emmène habituellement faire sa tournée de cadeaux.
Sur France Bleu Armorique, laissez-vous compter la Bretagne tous les jours à 8h28 et 11h50 pendant les vacances de décembre.
Les fêtes de fin d'année en Bretagne, c'est magique. France Bleu. Vous avez les questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et oui, tous les dimanches matin, Philippe Munier, notre expert jardinage, répond à vos questions. Vous nous appelez au 02 99 67 35 35. Mais tout de suite, la première question de la matinée avec Martine qui nous appelle de Pleumeur. Bonjour Martine.
Oui, bonjour.
On est ravis de vous accueillir déjà Martine.
Oui, moi aussi. J'espère que vous avez passé un bon Noël.
Très très bien, je vous remercie. J'espère qu'il en est de même pour vous Martine.
Oui, oui, ça s'est bien passé également.
Très bien. Alors, quelle est votre question à Philippe, Martine ?
Alors, déjà, je remercie Philippe pour sa réponse. Donc, moi, j'ai des orchidées qui sont toujours en fleurs, magnifiques. Mais par contre, j'ai un problème avec les feuilles. Alors, je voulais savoir si les feuilles malades, fallait les couper.
Oui.
Voilà ma question.
Oui, la réponse est oui. Mais maintenant, ce qui n'est pas très, très normal, c'est d'avoir une plante qui soit belle en fleurs, mais qui, d'un autre côté, ait des feuilles abîmées. Donc, c'est quoi comme type de...
C'est des phanéolepsis.
Oui, mais comme type de symptômes sur les feuilles.
J'ai le bout, il y en a une principalement, qui m'avait fait des trous. Donc, et maintenant, ce que je vous avais dit déjà une fois, c'est que j'avais mis de la cannelle, j'avais vu ça, donc elle s'est reformée, mais il y a des taches noires, et elles me font des fleurs, mais je vois pas de nouvelles feuilles. Donc, je suis un petit peu embêtée. Mais, alors, je suis dans une véranda qui, quelquefois, chauffe beaucoup, donc elles ont peut-être été brûlées, et il m'est arrivé aussi de les oublier dans l'eau toute une nuit, alors elles ont peut-être attrapé un champignon. Alors, j'ai suivi votre conseil, c'est-à-dire que j'ai nettoyé avec un petit coton-tige et du savon noir. Mais bon, comme c'est pas joli les feuilles et puis qu'elles manquent un peu de verdure, je voulais savoir s'il y avait d'autres moyens d'y parer.
Alors, en fait, donc vous... dans la véranda, il faut faire très attention parce qu'effectivement, il y a des températures extrêmes. Côté chaleur, oui. Mais côté froid aussi. En ce moment-là, cette nuit, il n'a pas fait chaud. Peut-être oui. Qu'il a fait... Bon, donc, si, il faut absolument que vous tempériez les chutes de température l'hiver en mettant un petit soutien avec un radiateur électrique. Normalement, l'idéal pour une phalaenopsis, c'est ne pas descendre au-dessous de 18.
Oui, donc, là, je suis à 15, là, actuellement. Oui,
alors là, c'est, ça explique les taches noires.
Ah, d'accord.
Oui, ça explique les taches noires. C'est pas du chaud, c'est du froid.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Donc, si vous voulez avoir des plus jolies feuilles, il faut ne jamais descendre en dessous de 18 et vous rajoutez un petit peu un engrais azoté, un engrais plante verte, une fois par mois, toutes les 5 semaines, même pendant l'hiver. Et puis, par contre, à partir du mois de mai, vous pourrez recommencer à faire tous les 15 jours. Et en plus, en plein été, toutes les semaines, 10 jours au maxi.
Voilà. Oui, c'est ça, Philippe et Martine, en fait, pour résumer, les orchidées, elles ont besoin de chaleur, quoi.
Ben, c'est ça. La plupart des orchidées de nos intérieurs sont des orchidées tropicales, donc en dessous de 15 degrés, elles ont froid. Mm-hmm. Hein, donc, elles ont vraiment froid. Donc, elles se mettent à la limite du péril, et à 10, elles sont mortes pour la plupart. Donc, il faut faire très, très attention, ne pas descendre en dessous de 18, et puis, normalement, ça devrait le faire, quoi.
Mais si je les change de ma véranda pour les mettre dans ma salle à manger où c'est plus chaud, les changer tout le temps, ça ne va pas les perturber ?
Si, ça c'est sûr.
Voilà.
Ça c'est sûr. Mmh. C'est pour ça qu'il faudrait presque bien isoler la véranda pour pouvoir mettre un petit complément de chaleur sans dépenser des quantités d'énergie folles, de manière à pouvoir les garder dans la véranda. En plus, la véranda c'est bien, c'est très lumineux, donc c'est un bon endroit pour des orchidées, mais il faut pouvoir tenir la chaleur à des niveaux raisonnables, c'est-à-dire c'est 18-22, hein. Donc, il ne faut pas que ça monte au-dessus de 22, 25 maxi. Il ne faut pas que ça descende en dessous de 18.
Voilà, Martine, pour votre voilà, c'est ça, la réponse de Philippe pour vos orchidées. Donc, vous les tenez bien au chaud, tout comme vous, Martine. Voilà, restez au chaud.
Et merci à Philippe.
Merci, Martine, merci, en tout cas, d'avoir appelé.
Merci, bonne fête de fin d'année.
Bonne fête. Allez, tout de suite, on accueille Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre.
Oui, bonjour, France Bleu. Bonjour, tout le monde.
Comment allez-vous?
Ben, ça va très bien. Ce matin, on est un petit peu dans le brouillard, nous, mais bon.
Bah oui. Alors, je crois que vous avez une question pour vos chrysanthèmes.
Voilà, moi, j'ai acheté des chrysanthèmes cascades et j'aurais voulu les conserver pour l'année prochaine. Et j'aurais voulu poser la question comment faire justement pour les conserver.
Alors, pour faire des belles cascades, le problème, si je puis dire, parce que c'est un plaisir pour un jardinier, c'est qu'il faut refaire des boutures tous les ans.
D'accord.
Donc en fait, les cascades que vous avez achetées cette année, vous les hivernez tranquillement, donc dans un endroit qui soit de préférence pas trop en dessous de 5 degrés. Donc ça, en général, c'est pas trop dur à trouver.
Ouais.
Et puis il y a suffisamment de lumière. Et à partir du 15 février, fin février, début mars, vous voyez, bon, grosso, c'est leur démarrage de la végétation. Quand vous allez voir des petits rameaux de 5-6 cm se développer, vous récupérez ces petits rameaux-là, éventuellement avec un très léger, ce qu'on appelle un talon, donc un tout petit bout de la branche en dessous.
Oui.
Et vous refaites. Alors, il faut, pour une bouture de chrysanthème, il faut toujours la faire sécher un petit peu. On a peur que ça meure, mais en fait, ça meurt pas. Donc il faut pendant une bonne heure la faire sécher. Elle fane, c'est pas très joli, mais c'est l'une des conditions de reprise. Hein. Ensuite, vous mettez ça dans un substrat très très bien aéré, moitié terreau, moitié sable grossier. Et puis normalement, si vous arrosez correctement, il y a 80% qui redémarre dans les 3 semaines.
D'accord.
Et dès qu'elles sont reparties, vous les repiquez une première fois, puis deuxième fois, puis après, on est arrivé courant mai. On peut aller, on les met dehors et c'est là où on va commencer à les travailler à plat sur des bambous de manière à les obliger à être une cascade.
D'accord. Par contre, le vieux bois de l'année, faut le retirer ou quoi ?
Alors pour l'instant, vous le gardez jusqu'au mois de février, jusqu'à ce que vous fassiez vos boutures. Et une fois que les boutures sont faites, soit vous tentez le coup de le bouturer, mais ça fera jamais des très beaux chrysanthèmes, soit vous le mettez sur compost parce que vous avez suffisamment de jeunes boutures qui vont assurer la relève.
D'accord. Par contre, là, faut enlever toutes les vieilles feuilles, les vieilles fleurs, tout ça qui sont fanées.
Oui, vous savez, il vaut mieux faire une petite taille de propreté, tout à fait, oui.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Okay, ben, je vous remercie.
Voilà, Jean-Pierre.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà.
Bonne fête, Jean-Pierre. Et puis, les bons conseils de Philippe vont vous faire repousser.
Comme quoi, on voit que les jardiniers sont toujours un cran d'avance parce que Jean-Pierre, il prépare déjà les floraisons de la Toussaint l'année prochaine.
Quel talent! Merci en tout cas Jean-Pierre pour votre question. Donc tout de suite, on accueille Félix. Félix qui nous appelle de Pleugriffette.
Mets-moi fort.
Bonjour Félix.
Oui.
Vous nous entendez bien ?
Oui, je vous entends très très bien.
Bon, parfait. Alors bienvenue à France Bleu Armorique déjà.
Oui, merci.
Alors je crois que vous avez une question pour Philippe en ce qui concerne vos poiriers, entre autres.
Poiriers et pommiers.
D'accord. On vous écoute, Félix.
Alors, parce que cette année-là, ils ont fait des pousses jusqu'à environ les pousses de combien? De 20 cm, ils ont poussé jusqu'à 80 cm. Alors, ce serait pour savoir s'il faut les couper et à quelle dimension à peu près, quelle hauteur. Parce que ce sont comme des gourmands, si vous voulez.
Alors, ce type de pousses-là, il faut toujours bien réfléchir avant de les couper. Il faut bien regarder. Par exemple, si vous avez une branche sur le poirier ou pommier, de toute façon, c'est la même chose, hein, une branche qui commence à vieillir, et vous vous posez la question, est-ce que si je réutilise un de mes dégourmands, je le mets en parallèle, je le laisse grandir pendant 1 ou 2 ans, et j'enlèverai ma vieille branche, et c'est la branche neuve qui va prendre le relais. Hein. Donc ça, il faut bien réfléchir à ça, ça permet de rajeunir les arbres fruitiers, de supprimer des vieilles branches qui deviennent un peu moins productives, et donc ça, on va garder peut-être 3, 4, maxi jeunes pousses de l'année, et puis toutes les autres, on les supprime à ras.
Ah, vous les supprimez à ras.
À ras, oui, tout à fait.
Il faut laisser que quelques-unes.
Vous ne gardez que celles que vous allez pouvoir réutiliser pour rajeunir vos arbres fruitiers. Ah
oui. Et Philippe, pour parce que ça gèle un petit peu quand même en ce moment, alors pour les jeunes pousses sur les poiriers, les pommiers, y a-t-il des précautions peut-être à prendre ?
Alors, on travaille jamais quand il gèle, en fait. Hein. Donc, il faut bien prendre la température. Ça ne veut pas dire qu'il peut geler la nuit d'avant, la nuit d'après, mais quand on fait un travail de taille, il faut que les températures soient au-dessus de 0, à 5 degrés, suffit largement. Et je crois que c'est ce qui est prévu cet après-midi. Donc, il n'y a pas de souci, on peut travailler à cette température-là.
C'est ce que vous aviez prévu, Félix, j'imagine.
Allô ?
Oui, voilà.
Oui, parce que déjà, j'en avais coupé un peu, là, parce que sur les pommiers ou sur les poiriers de Massin, on a peut-être une cinquantaine de tiges qui sont poussées. Hein.
Bien sûr. Ouais, non,
c'est pour ça, faut enlever toutes celles qui sont moches, déjà, mal placées, etc. Et après, les plus belles, on réfléchit. Est-ce que je peux l'utiliser dans ce cas-là? Ben, je la garde, et puis je la plie un petit peu pour que la sève circule moins vite. Est-ce que je peux, si je ne peux pas l'utiliser, je la coupe aussi.
Et voilà, Félix, en tout cas. Eh bien, on vous remercie, Félix, pour votre question. On vous souhaite d'une...
Pour la chaux vif. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre au pied des arbres fruitiers, de la chaux vif ou de la chaux éteinte?
Alors, surtout pas de la chaux vive, on met de la chaux éteinte, c'est-à-dire des carbonates de chaux. Et on fait attention à ne pas en mettre de trop, on est sur du 10 grammes par mètre carré et par an.
Voilà, Félix. Est-ce que ça répond à votre question?
Ça empêche les insectes de venir aussi.
Entre autres, et puis surtout, ça donne du calcium à l'arbre et ça évite d'avoir des pommes ligeuses.
Bon, bah d'accord. Bah, je vous remercie.
Merci Félix, voilà, on vous souhaite de bonnes fêtes. Et Philippe, vous restez avec nous. Hein. On revient de suite.
Il n'y a pas de souci, je suis là.
Vous avez les questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Il a quitté le fauteuil de jury de l'émission The Voice. Il s'installe chez vous tranquillement. Florent Pagny a une chanson pour vous.
Faire oublier une seconde la douleur. Si une chanson a le pouvoir de faire communier tout le monde en douceur, alors il faut chanter. Alors il faut chanson tombée du ciel, sortie d'une malle ou d'une armoire peut aider. Si cette chanson est de celles qui peuvent ramener l'espoir et la paix, alors il faut chanter. Alors il faut se présenter au parloir. Si sans appeler à la haine, elle s'est allumée une flamme dans le noir. Alors il faut chanter. Alors il faut chanter.
Chanson sur France Bleu Armorique. On retrouve tout de suite Philippe, votre expert jardinage et vos questions, dans un instant. France Bleu.
Pendant les fêtes sur France Bleu Armorique, c'est un florilège talent breton. Retrouvez le groupe Morbihanais, Ewen et l'atelier clandestin. Les Finistériennes Cécile Corbel et Azilis Monroe, les voix soul et groove de la chanteuse Mélina Hain et du groupe Que the Alligator. Mais aussi le groupe de rock celtique breton Les Vriers, le collectif 13, Batomet, le chanteur rennais Zaïba et le trio rock Philao. Les talents bretons, c'est à 17h55 du lundi au vendredi et le samedi à partir de 12h30. Avec les talents bretons, France Bleu Armorique envoie la musique.
France Bleu et les éditions 10-18 vous font partager leur passion du polar en créant le prix France Bleu Grand Détective. Vous aussi, êtes passionné de polar et de romans historiques ? Vous souhaitez intégrer notre jury ? Rendez-vous sur francebleu.fr. Si votre candidature est retenue, vous recevrez 5 polars français à lire et à départager entre janvier et mai. Première édition 2020 du prix France Bleu Grand Détective. Rendez-vous sur francebleu.fr. Bonne chance.
Vous avez des questions ? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, vous répond jusqu'à 10h.
Et vos questions à Philippe Munier, votre expert jardinage, ça continue. Et nous accueillons tout de suite Thérèse qui nous appelle de la Guerche de Bretagne. Bonjour Thérèse.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, très bien.
Bon, mis à part que vous avez un petit problème avec votre sol crevette.
Ah oui, oui, enfin un petit problème. C'est que je voudrais bien le tailler cette année et puis là je me suis dit je vais poser la question comme ça.
Vous avez bien fait Thérèse, vous êtes la bienvenue à France Bleu Armorique. On vous écoute Philippe.
Alors, en fait, la taille du sol crevette, il ne faut pas s'énerver trop. C'est plutôt une taille que vous allez faire en fin d'hiver, tout début de printemps. Donc, grosso modo, dans le courant du mois de mars. Vous pouvez être assez sévère, hein, parce que ce qui est joli, c'est effectivement les petites pousses roses crevettes qui vont naître après la taille. Alors, on taille relativement sévère. On fait bien attention à bien lui donner à boire après, parce qu'il faut quand même bien le stimuler pour qu'il redémarre en végétation, lui faire un bon apport de compost et puis bien pailler le pied pour éviter qu'il y ait la concurrence avec les plantes sauvages. Et puis dans ces conditions-là, il va faire une belle végétation. Et vous pouvez aussi refaire une deuxième petite taille légère, on va dire grosso modo fin juillet, début août. Et du coup, il y aura une deuxième génération de pousses rose saumon, la rose crevette. Et donc comme ça, vous aurez deux fois le plaisir d'avoir votre saule crevette dans le jardin.
C'est-à-dire les branches là, comme elles sont quand même, elles sont très très longues. Mmh. Je peux les couper pratiquement à ras du tronc.
Alors, peut-être pas à ras du tronc, peut-être garder une petite structure, un petit squelette, mais après ramener effectivement le assez court, quasiment à ras. Oui, tout à fait. Mais pas,
je vous dis,
garder quand même deux, trois petites branches, une petite structure, quoi, pas un tronc, et puis des branches qui partent comme ça fera un petit peu machin pour épousseter, là, c'est pas
oui.
Terrible.
Non, voilà. Quelques centimètres de chaque branche pour que ça donne une forme.
Voilà, qu'il y ait une jolie forme, une jolie structure.
Comme ça, ce sera uniforme, en fait, voilà, si je comprends bien.
Oui, je vois. Alors, c'est vert au mois de mars.
Voilà, et puis léger, courant d'été. Voilà. Par contre, faudra, en été, si vous faites ça, il faut bien arroser. Hein.
Oui.
C'est un saule quand même. Même si pas. Les saules japonais sont moins gourmands en eau que les saules européens, mais quand même, ils aiment bien avoir un peu de fraîcheur.
Ok, je vais faire ça comme ça. Non, parce que toujours, on me dit, mais il est temps de le couper, alors je voulais savoir quand.
Voilà. Et ben voilà.
Et ben merci Thérèse.
Vous avez...
Merci, bonne journée.
Bonne journée à vous aussi. Alors tout de suite, c'est Pierre qui est là. Il nous appelle de Domalin. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ah ben ça va, pour un dimanche.
Bah oui, comme un dimanche. Bon, écoutez, c'est parfait. Alors quelle est votre question à Philippe, Pierre?
Alors j'en aurais, disons, une à poser, c'est au niveau des pommiers. Alors je crois que ça a dû passer avant, mais j'ai pas entendu, parce que j'ai un pommier qui pousse assez haut. Il fait des grandes tiges tous les ans. Je le taille pourtant pas beaucoup, mais il fait quand même des tiges de 1 mètre. Alors je voudrais quand même savoir qu'il arrête un peu de pousser. Alors j'ai tout fait, j'ai coupé les racines pour voir. Tout le tour pour arrêter de pousser, tout ça. Et rien
n'y fait. Alors Philippe, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Pierre ?
Alors malheureusement, s'il coupe, même si vous coupez les racines, c'est qu'en fait, c'est un pommier qui est greffé sur un porte-greffe puissant, porte-greffe qui doit être très bien installé en profondeur. Donc si on lui coupe les racines superficielles, ça lui fait ni chaud ni froid. Et donc vous n'aurez malheureusement pas de solution que de le laisser pousser comme il a envie de pousser. Donc, c'est un pommier qui est certainement sur un porte-greffe de plein vent. Et du coup, on ne peut pas en faire des petites formes avec. On est condamné à garder une grande forme.
Ah oui, parce que c'est un rejeton que j'ai pris sur un autre pommier, en fait.
D'accord. Donc, en fait, si c'est un rejet d'un autre pommier, il y a de fortes chances que ce soit que le porte-greffe. Donc, il est tout dans la puissance. Donc, la seule manière qu'il y aurait de le calmer, ça serait de lui greffer dessus une variété à belle grosse pomme. Et du coup, ça va limiter un peu sa croissance.
Parce que là, c'est la rainette d'Armorique.
Oui, mais si vous avez pris un rejeton à la base, normalement, c'est pas une rainette d'Armorique que vous avez eue, c'est le porte-greffe. Ouais, et le porte-greffe, lui, c'est pas forcément une rainette d'Armorique. Ça peut être autre chose.
Ah oui. Mais là, il donne des fruits quand même, reine d'Armorique. Hein, la reine d'Armorique.
Ah, il donne des fruits, reine d'Armorique, d'accord. Bon, alors, dans ce cas-là, vous le laissez se développer et puis vous avez plus de pommes. Ou si vous voulez le calmer, ben, vous le regreffez avec une variété un petit peu plus à fruits assez gros, de manière à l'obliger à faire moins de croissance. Alors, il faudrait que je trouve un petit peu dans les tableaux de compatibilité. Là, j'ai pas ça sous les yeux.
Non.
Mais éventuellement, oui, je pourrais dire ça un dimanche prochain. Quel type de greffe vous pourriez faire pour limiter un peu sa croissance?
Oui, parce que cette année, j'en ai greffé sur des rejetons, sur des pommiers qui m'a donné des rejetons il y a 2 ou 3 ans. J'ai greffé des pommiers, justement, d'été, des pommes qui donnent l'été, c'est-à-dire au mois d'août, septembre.
D'accord, oui, des pommes sont genre William, qu'est-ce que je dis, Saint-Jean, des choses comme ça.
Ah, par contre, je ne connais pas, parce que ce sont des greffes qui viennent du Finistère, dans un ancien jardin curé, en fait.
D'accord.
C'est des pommes qui datent il y a au moins peut-être 40 ou 50 ans.
Il faudrait les faire identifier par une association de mordus de la pomme, pas loin de chez vous, de Plantou, Griffou. Il y a beaucoup d'assauts en Bretagne sur les vieilles pommes. Les faire identifier, parce que c'est intéressant comme ça, les pommes d'été. Donc si on peut les multiplier un peu partout en Bretagne, il faut en profiter.
Ah ben oui, c'est pour ça que moi, quand j'ai su, c'est chez des gens tout à fait agréables, qu'ils ont un jardin de curé comme ça, ils ont gardé les pommiers. Quand
ça, c'est super.
Au mois de juillet, août et septembre, parce qu'après, c'est fini. Après, il n'y a plus de pommes. Il faut du jus de pomme en septembre, et après, il n'y en a plus.
Mais d'accord, mais c'est bien d'avoir des pommes précoces comme ça, c'est très intéressant.
Bon. D'accord. Alors, j'en ai une douzaine de prises, là, pour l'instant, mais bon, ben voilà.
Eh ben merci en tout cas Daniel pour cette excellente question. Puis c'est vrai que en Bretagne des pommes on en a et beaucoup de variétés. Voilà. On vous souhaite une belle journée Daniel. On vous embrasse. Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir Daniel et puis Philippe, on se retrouve dans un instant juste après la météo.
Vous Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
De la brume ce matin sur l'ensemble de nos départements bretons. Les températures sont comprises entre 1 et 5 degrés actuellement. 1 degré à Fougères et Vitré, 2 degrés à Rennes, Ploermel et Loudéac, 3 degrés à Guingamp et Vannes, 4 degrés à Saint-Brieuc, 5 degrés à Paimpol et Quiberon. Cet après-midi, la brume se dissipe pour laisser place au soleil. La température maximale sera de 10 degrés. Ce soir, le ciel sera dégagé. Il deviendra nuageux avec du brouillard une bonne partie de la nuit. Les températures seront comprises entre moins 1 et 2 degrés. La tendance pour les jours suivants, un ciel couvert avec quelques pluies par endroit et des températures comprises entre 10 et 11 degrés en journée. Et il est venu sans Jerry Lee Lewis vous souhaiter un joyeux Noël. Tout de suite, le crooner de ces dames, le King of Cool. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Martin, let it snow, let it snow, let it snow sur France Bleu Armorique.
Vous avez des questions? Il a la main verte. Philippe Munier, l'expert jardin de France Bleu Armorique, 02 99 67 35 35.
Et vos questions avec notre expert Philippe continuent et nous accueillons tout de suite Daniel qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous êtes sur France Bleu Armorique, bienvenue.
Très bien, merci.
On vous écoute attentivement, Daniel.
Bien. J'ai quelques rangs de topinambours que j'utilise à mesure que j'en ai besoin. Par contre, des petits, je les mets de côté. Est-ce que je peux les replanter maintenant? Parce qu'autrement, ils flétrissent et je ne sais pas comment les garder. Voilà.
Alors, la réponse est très claire, c'est oui. Oui, vous avez complètement raison. Effectivement, il ne faut pas sortir les topinambours de terre ou les sortir très peu de temps parce que sinon, ils flétrissent et du coup, ils perdent leur pouvoir germinatif. Donc, effectivement, quand on veut refaire une planche, eh bien, on sort les plus petits, alors pas forcément les vraiment petits, mais petits moyens, c'est pas mal. Hein. Un petit calibre, voilà, c'est assez petit pour qu'ils aient une possibilité de bien grossir. Et du coup, ça vous fait votre production de topinambours pour l'année prochaine.
Très bien. Je vous remercie.
Mais c'est nous, Daniel, qui vous remercions. On vous embrasse.
Mes meilleurs voeux pour l'année prochaine.
Tout pareil, Daniel. On vous souhaite le meilleur aussi pour 2020.
Très bonne fin d'année.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, Daniel. Allez tout de suite, direction Dol-de-Bretagne avec la question de Gérard. Bonjour, Gérard.
Bonjour à toute l'équipe.
Comment allez-vous?
Ça va, comme le soleil.
Bon, très bien. Il brille de mille feux, alors, Gérard. Oui, alors, oui. Je crois que vous avez une question sur les choux de Bruxelles. On vous écoute.
Oui, j'ai des choux de Bruxelles qui sont très beaux et puis ils m'ont une belle touffe en haut. Et la surprise hier, parce qu'on a des gîtes, on a des touristes, et on a trouvé hier des chenilles. Et des chenilles à choux au mois d'août. C'est quand même bizarre.
Alors, c'est pas si bizarre que ça, en fait, parce que la pyride du chou, c'est un insecte qui est relativement costaud, on va dire, et dès qu'il y a des périodes de redoux, elle peut très bien se remettre à pondre, et les chenilles, tant qu'ils ne gèlent pas, vont pouvoir se développer. Si elles arrivent à se cacher, en plus, dans le chou de Bruxelles, les caches sont très faciles, donc ça lui permet d'être à l'abri du gel. Et alors, elles mangent beaucoup, beaucoup moins qu'en plein été, mais elles peuvent faire des dégâts. Effectivement, il s'est arrivé d'avoir des chenilles au mois de décembre qui faisaient des dégâts, et dans les choux de Bruxelles, et dans les choux-fleurs aussi, où elles arrivent à bien se cacher.
Quel est votre remède? Moi, je propose la chou vive.
Ah non, ça sert à rien. Le remède sur les pyrides, hein, sur les chenilles, on les cueille, on les donne aux poules, et l'affaire est réglée.
Oui, mais il n'y a pas une incubation dans le sol.
Non, il n'y a rien du tout dans le sol.
Ah bon,
ça. Par contre, mettre un petit peu de calcium au pied des choux, ça c'est indispensable. Donc, comme tout à l'heure pour les pommiers, il faut un petit peu de calcaire au pied des choux. Donc, mettre un peu de carbonate de chaux, et non pas de chaux vive, qui brûle le sol, c'est tout à fait astucieux, et ça vous permet d'avoir des choux en bonne santé, sans la maladie de la hernie du chou.
Ah oui, d'accord. Ah oui, mais je pensais qu'il fallait un peu désinfecter le sol, parce que certainement qu'il reste des œufs dans le sol.
Non, pas du tout. Le papillon pond ses œufs sur le chou, et la chenille, en général, se développe sur le chou pour se transformer en papillon.
D'accord. Alors, le mieux, c'est d'attraper un sac, puis de mettre ça dans un sac. Et
voilà, puis vous le donnez aux poules, ça, comme ça, ça transforme une chenille désagréable en un œuf délicieux.
D'accord, merci quand même.
Mais c'est nous qui vous remercions, Gérard.
Et puis bon courage pour continuer. Hein.
Merci Gérard, c'est adorable. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on vous retrouve, Philippe, avec aussi une question sur les anémones du Japon et les crocus. Mais tout de suite, on va passer Louis Chédid. Ben oui, parce que ça faisait 7 ans qu'on l'attendait, ce nouvel album de Louis Chédid. 46 ans après son tout premier. Et ben, écoutons-le.
Aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi, trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. C'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie. Corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche. Tout ce qu'on veut dans la vie. Main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie.
Louis Chédid, tout ce qu'on veut dans la vie sur France Bleu Armorique.
France Bleu.
Salut France Bleu, c'est Bob Sinclair.
France Bleu vous offre des fêtes 100% émotion.
Le 31 décembre à partir de 22h, je prends les platines de France Bleu.
Poussez les meubles, levez les bras. France Bleu invite pour vous Bob Sinclair. 4 heures de mix inédit pour passer à 2020.
Je m'occupe du son et on se retrouve sur France Bleu.
France Bleu, 100% d'émotion. Jusqu'à 10h, Philippe Munier, notre expert jardin, répond à vos questions.
Et on vous retrouve, Philippe, avec la question de Marie qui nous appelle de Rennes. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bienvenue sur France Bleu Armorique. Alors je crois que vous avez une question sur les anémones du Japon, entre autres. On vous écoute.
Oui, alors je voudrais savoir, en cas de départ de mon pavillon, dans les 2 mois, est-ce que je pourrais déterrer des anémones du Japon que j'aimerais bien emmener et des crocus?
Alors pour les anémones du Japon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, vous pouvez les prendre et vous pouvez même vous amuser à couper les racines. Chaque morceau de racine redonnera une nouvelle anémone. Donc ça permet, c'est une bonne méthode pour les multiplier. En ce qui concerne les crocus, normalement, ils ont commencé leur végétation et du coup, ils seront un petit peu plus fragiles. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est faire très très attention de les prendre avec la terre qui les entoure. Donc l'endroit que vous voulez les récupérer, vous l'arrosez correctement 3-4 jours avant. Bon, le ciel s'en charge depuis quelques temps, mais il faut que la terre soit suffisamment molle pour bien rester collé sur les jeunes crocus, et il faut les replanter le plus vite possible, c'est-à-dire dans moins de 4-5 heures, de manière à être sûr que ça ne dessèche pas, sinon ils meurent.
Voilà, et alors, Marie. Les anémones du Japon, je peux les mettre en jardinière, est-ce qu'il faut beaucoup de profondeur?
Alors, c'est une plante qui a un fort développement, hein, donc les mettre une année ou juste en jauge comme ça, en attendant mieux pendant quelques semaines ou quelques mois dans une jardinière, il n'y a pas de souci. Par contre, vous ne pourrez pas les laisser plusieurs années parce que il n'y aura pas assez de volume, et c'est une plante très puissante, très gourmande, donc très rapidement elle va péricliter.
Oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je pensais faire. Ouais.
Donc, par contre, on peut les mettre. Les anémones du Japon, j'en ai vu dans des grandes jardinières, dans genre un demi-tonneau ou des choses comme ça. Donc, une jardinière de volume de terre, on va dire au moins 50-60 litres. Et là, dans des conditions comme ça, s'il y a suffisamment de terre, ça peut faire une très belle potée d'anémones. Et puis, au moins, on est sûr qu'elle ne va pas s'en aller coloniser tout le jardin, parce que c'est un peu le problème des fois avec les anémones du Japon.
Est-ce que je dois mettre du terreau?
Alors vous mettez, l'idéal c'est un tiers de sable, un tiers de terre de jardin, un tiers de terreau.
Et quel genre de terreau?
Alors c'est soit du compost maison, si vous avez, soit vous prenez un très bon terreau en jardinerie. Et pour l'instant, les prix sont encore en adéquation avec la qualité. Donc en général, le plus cher c'est le meilleur. Ça va peut-être pas durer, mais pour l'instant c'est encore vrai.
Oui, bien sûr, mais en terreau géranium ou plante verte ou...
Le terreau, ce qu'on appelle le terreau universel.
Ah, d'accord.
Voilà.
Voilà, d'accord, Marie.
Oui. Merci.
Eh bien, on vous en... avec grand plaisir, Marie. Eh bien, on va poursuivre.
Au revoir.
Au revoir, Marie. Bonne fête de fin d'année. Alors, tout de suite, on poursuit avec Odile, qui nous appelle de Retiers. Bonjour, Odile.
Okay.
Vous nous entendez bien?
Oui, je
vous
entends bien.
Eh ben, on vous écoute. Allez-y, vous pouvez poser votre question à Philippe. Hein.
Bonjour Philippe, moi je voudrais savoir pourquoi dans mon jardin les carottes éclatent.
Alors Odile, il va falloir couper votre radio, s'il vous plaît.
Il faut éteindre la radio.
S'il vous plaît, oui Odile.
Oui. Pardon, excusez-moi.
Merci Odile.
Oui, alors je voudrais savoir parce que j'ai un rang de carottes et elles éclatent. Dans la terre.
Alors, il y a plusieurs choses. Quand elles se font carrément deux carottes, hein, en général, c'est que la petite plantule, quand elle a commencé à s'enfoncer en terre, elle a rencontré un obstacle, un caillou, un petit bout de compost mal décomposé, n'importe quoi, et ça la bloque, et du coup, elle part des deux côtés de l'obstacle. Ça, c'est pour les carottes à plusieurs carottes, quoi. Par contre, les carottes éclatées, c'est un problème de manque d'eau, c'est un problème d'arrosage, et comme on a eu chaud cet été, eh ben, il suffit que la carotte ait souffert. Et à chaque fois, elles explosent comme ça. Et là, ça fait des trucs pas terribles. Et puis surtout, très casse-pieds et épluchés.
Ben oui. Mais si j'arrosais pas du tout, elles éclateraient aussi. Parce que j'arrose que de temps en temps.
C'est comment dire, si vous avez une terre légère, il faut arroser systématiquement. Et en général, les belles carottes, elles poussent en terre légère. Si vous avez une terre qui garde bien l'eau, c'est normalement, et que c'est bien paillé, normalement, on a moins besoin d'arroser, voire pas besoin d'arroser. Mais on a quand même eu des conditions de température assez un peu partout en Bretagne l'été dernier, quand même assez exceptionnelles. Donc il fallait quand même arroser un minimum, mais la première chose à faire surtout, c'est de penser à pailler entre les rangs en mettant de la bonne vieille paille. Hein. C'est le terme de paillage, je sais pas un hasard s'il existe. La bonne paille. Et ça garde énormément l'humidité dans le sol et ça permet de limiter justement ce manque d'eau qui provoque l'éclatement. Donc simplement un bon paillage et puis après vous surveillez une fois par semaine, vous passez, vous mettez le doigt sous la paille. C'est trop sec, j'arrose. C'est encore un peu frais, et ben j'arrose pas.
Très bien. Et le marc de café, moi je mets du marc de café souvent sur les feuilles.
Alors le marc de café c'est bien, c'est un bon complément, hein. ça vaut pas tout à fait un compost, mais c'est un bon complément de culture, vous avez raison. La seule chose à faire, ne le mettez jamais frais, parce que le marc de café trop frais, ben, ça risque de faire mourir les carottes, ou d'autres plantes d'ailleurs. Hein. Donc il vaut mieux qu'il ait au moins, au minimum une semaine, c'est l'idéal. Donc quand vous gardez le marc de café, faites-le vieillir au moins une semaine, et après vous pouvez l'utiliser à peu près partout dans le jardin.
Et puis pour voir l'avenir, hein, Philippe, le marc de café, il vaut mieux le voir un peu vieillir du coup. Hein, ça aide à voir l'avenir.
Je suis pas compétent pour l'avenir. Hein, là, je, non.
C'était une petite blague avec Odile, là, on est comme ça.
Et je vous remercie beaucoup.
Bonne fête de fin d'année.
Bonne merci
journée,
Odile.
Bonne fête de fin d'année.
Au revoir. Et bah oui, bon, j'avais une petite question moi aussi, Philippe, parce que bah, bientôt on va devoir ranger nos sapins. Beaucoup d'entre nous ont fait un sapin de Noël. Et je voulais savoir, Philippe, alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut finalement le garder, ce sapin, ou comment l'idéal aussi pour, entre guillemets, s'en débarrasser. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Philippe ?
Alors, déjà, bon, maintenant c'est un peu tard, mais à la base, l'idéal, c'est de pas avoir de sapin à recycler. Mmh. Donc, on peut faire du sapin avec plein de choses, hein, avec des choses, je sais pas, avec du carton, avec on peut avoir plein d'imagination. Il y a plein de trucs sur Internet qui vous permettent de faire des sapins sans sapin, et ça permet de ne pas que le problème ne se pose pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on est en campagne, eh bien, il suffit d'avoir un petit broyeur ou que le voisin ait un broyeur, et on passe le sapin dans le broyeur, on récupère les broyats, ça va au jardin, ça va au compost, et donc le sapin est recyclé, et même s'il y a un petit peu de neige artificielle dessus, bon, ça se voit pas trop dans les broyats, et puis au lieu de le mettre au potager, ben on le met au jardin d'ornement, ça fera une petite décoration de plus. Et puis, pour ceux qui sont en ville, ben, je vous signale par exemple pour les Rennais, que il y a des opérations de broyage. Alors j'ai pas les dates en tête là tout de suite, mais en les cherchant un peu, je dois retrouver. Il y a des opérations de broyage qui auront lieu dans le courant du mois de janvier, dans la première semaine de janvier. Donc vous pourrez aller broyer votre sapin, vous pourrez même récupérer le broyage, et si vous ne le récupérez pas, eh bien, il ne sera pas perdu, il servira à un jardinier dans les jardins partagés. Donc vous voyez, ça servira quoi qu'il arrive à quelque chose.
Eh bien écoutez, merci Philippe pour ces bons conseils. Des conseils qu'on peut trouver dans votre livre aussi, je crois. Enfin, en tout cas, pas exactement celui-ci, mais je crois qu'En Devenir, vous avez votre livre là, qui va sortir bientôt.
Ah non, c'est pas un livre, d'abord c'est un DVD.
Ah, c'est un DVD.
Parce que moi je suis un grand bavard, mais je sais pas écrire. Donc je préfère faire un DVD, mais ça sera, je pense que ça sera pour les fins d'année, les fêtes de fin d'année, l'année prochaine.
D'accord, bon, donc c'est en préparation alors.
C'est dans les classeurs, c'est dans les, voilà.
Bon, bah, c'est parfait, on a hâte déjà l'année prochaine pour pouvoir vous voir en plus, parce qu'on entend votre voix, bah, on va pouvoir vous voir en vrai alors.
Ah, en vrai, en chair et en os, on pourra pas me toucher dans le DVD.
Voilà.
Non, on peut pas. Il n'y aura pas d'hologramme, c'est pas prévu.
Pendant un instant, j'étais en train de rêver, Philippe, et puis voilà. Bon, écoutez. Merci en tout cas, Philippe Munier. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur les ondes de France Bleu Armorique dès 10h, et vous pourrez poser toutes vos questions à Philippe, toutes vos questions évidemment jardinage. Merci beaucoup, Philippe. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir, Delphine.
Au revoir. France Bleu.
France Bleu vous offre des fêtes 100% émotion.
Pendant toutes les fêtes, France Bleu vous offre les toutes dernières places pour le concert événement de Céline Dion.
Je suis super heureuse de vous annoncer mon retour en France
à l'U Arena en juin
avec France Bleu.
Céline Dion en concert en 2020 à gagner sur France Bleu. France Bleu, 100% d'émotion.
C'était en direct sur France Bleu Armorique.
Il y a du sourire dans votre voix. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie?
Oh, ben je viens de tomber amoureuse, donc voilà.
Oh, c'est pas vrai.
Après 50 célibats, c'est parti pour un tour.
Eh ben, je suis content pour vous. Franchement, moi, ça me fait plaisir.
France Bleu Armorique, écoutez, on est bien ensemble. Passez de belles fêtes de fin d'année avec France Bleu Armorique.
Dimanche 28 décembre, il est 10h. Excellente journée en compagnie de France Bleu Armorique. Et l'info à 10h, François Rosy.
Près de 10 000 personnes dans la rue en France hier. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. À Rennes, une centaine de cheminots s'est réunie devant la gare pour rencontrer les usagers et faire une collecte au profit du Secours Populaire. À Saint-Brieuc, ils étaient 200 devant la gare également. La grève à la SNCF qui perturbe toujours le trafic. 25e journée de mobilisation. 5 TER sur 10 aujourd'hui sur les rails bretons. Côté TGV, 3 Rennes-Paris et 4 Paris-Rennes sont en circulation. Plusieurs personnes blessées après l'attaque à l'arme blanche de la résidence d'un rabbin hier soir près de New York. 5 personnes ont été transportées à l'hôpital, 2 sont dans un état